Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et toute la journée, Europe 1 a consacré ce vendredi thématique à la question difficile de la fin de vie. Depuis décembre, 185 personnes tirées au sort examinent la loi française sur la fin de vie, ses limites dans le cadre d'une convention citoyenne. Les conclusions seront rendues le 2 avril prochain. Et en attendant de savoir ce qu'en fera le président de la République, 109 signataires d'un manifeste souhaitent une évolution, car à ce stade, la loi interdit de choisir librement l'heure de sa mort. Toute la journée, nous avons confronté les points de vue sur cette difficile, je le disais, question de la fin de vie. Bonsoir Emmanuel Hirsch.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Vous êtes membre de l'Académie de médecine, vous êtes sensible à cette question. Cette convention citoyenne du 19 février dernier a majoritairement soutenu l'aide à mourir. Vous en pensez quoi ?
D'abord, je m'exprime à titre personnel, non pas en tant que membre de l'Académie nationale de médecine. Et comme chacun, je ne sais pas ce que serait ma position si j'étais confronté demain, pour moi ou pour un autre, à une situation de souffrance et à une situation difficile par rapport à la fin de vie. Donc déjà, la difficulté d'anticiper, d'en faire un débat global de société. Alors maintenant, ce qui est important, c'est effectivement que le président de la République, en septembre, il y a quelques mois, a donc décidé qu'il y aurait une convention citoyenne. Et la première ministre avait demandé aux conventionnels, aux personnes, donc aux citoyens, aux 168 citoyens, de se prononcer sur est-ce que la loi de 2016 remplit toutes les fonctions qu'on peut attendre d'une loi par rapport à des situations singulières. Et est-ce qu'on ne doit pas faire évoluer la loi, notamment en termes d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté ? Alors pour moi, je comprends tout à fait que les gens souhaitent un encadrement législatif des questions de la fin de vie. La vraie question, c'est est-ce que l'encadrement qu'on a jusqu'à présent, c'est-à-dire avec la loi Olonetti et puis la loi de 2016, n'est pas suffisant ? Et est-ce que des situations...
Alors en quoi Emmanuel Hirsch, en quoi est-il suffisant ce cadre ?
C'est-à-dire que chaque fin de vie est une situation exceptionnelle. Et ce à quoi aspirent les personnes, c'est pas médicaliser la fin de vie, c'est à l'humaniser et à créer des conditions d'accompagnement social pour une personne très âgée, pour une personne vulnérable dans la maladie. La réponse d'une société démocratique, c'est pas de dire dans quelles conditions on va vous aider à mourir. Je crois que ce qui est important, c'est déjà d'assister la personne jusqu'au terme de son existence, c'est un premier point. D'autre part, si une personne revendique à titre personnel le droit de maîtriser sa mort, de maîtriser sa vie jusqu'à son terme, en quoi est-ce un acte médical et en quoi...
On a un problème de liaison avec Emmanuel Hirsch qui va être établi dans un petit instant. On va peut-être essayer de le rejoindre au téléphone car il était en plein développement sur cette difficile question de la fin de vie, sachant qu'effectivement, il nous disait à l'instant qu'il comprenait d'une certaine manière la douleur des familles et le fait qu'on ait cette volonté de faire une loi pour faire un nouveau cadre législatif. Emmanuel Hirsch sur Europe 1. Peut-être dans un instant, avec une meilleure liaison téléphonique, si ce membre de l'Académie de médecine, qui, comme il nous le disait, même si ce docteur intervient à titre personnel, eh bien, je crois qu'on n'a malheureusement pas la possibilité de le rejoindre. C'est la chose qu'il pouvait dire, en tout cas, c'est qu'il comprenait qu'il y avait cette convention citoyenne. Voilà, désolé, ce sont les problèmes du direct, dans un instant, je reçois Jean-Pierre Raffarin qui sort son livre « Ne sortons pas de l'histoire ». Il commentera bien sûr l'actualité politique du moment. Et avant de rejoindre Jean-Pierre Raffarin, je vous signale qu'Europe 1, c'est la radio des séries et qui est partenaire du festival Cannes Séries. Vous votez maintenant sur europe1.fr pour le prix Europe 1 du public. Vous élisez votre série française préférée. Parmi les 20 en compétition, il y a beaucoup de choses. Il y a Marie-Antoinette, il y a La fille au cochon, il y a Platonique, il y a Vision, il y a L'homme de nos vies, voilà, plein de séries. Vous envoyez série, S-E-R-I-E-S au 739-21, 75 centimes plus le coût d'un SMS. 3 SMS pour jouer, c'est à vous. Dans un instant, Jean-Pierre Raffarin sur Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et le grand témoin de l'actualité de ce vendredi est ancien Premier ministre, préside aujourd'hui l'ONG Leader pour la Paix. Et en plus de sa fondation Suffrain, il vient de publier « Ne sortons pas de l'histoire » chez Michel Lafon. Bonsoir et bienvenue à vous Jean-Pierre Raffarin.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Ces dernières 24 heures, la France connaît un moment tendu, un moment clé, un moment politique en tout cas. Le gouvernement a décidé de faire passer sa réforme des retraites par l'intermédiaire de l'article 49.3 de la Constitution, donc sans consultation de l'Assemblée, mais en engageant la responsabilité du gouvernement. Dans votre livre, Jean-Pierre Raffarin, qui ressemble à un livre de campagne, on va en parler, vous abordez un court chapitre, « Pas de nation sans cohésion sociale ». Et vous rapporter cet échange que vous avez eu avec Jacques Chirac. Pour lui, la priorité pour la France était que les Français ne se battent pas. Là, c'est un peu raté, non ?
Oui, c'est sûr que la violence aujourd'hui est un sujet majeur. Elle était déjà présente, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais ça fait un certain temps déjà où on voit qu'il y a une tendance dans notre société, mais aussi ailleurs, d'ailleurs aux États-Unis, au Brésil et ailleurs, à légitimer la violence. Donc on voit bien que c'est un problème qui est aux sociétés modernes et qui est assez grave. Mais aujourd'hui, on voit bien que notre processus politique est vraiment, je dirais, bousculé par la violence, ce qui au total est quand même regrettable. Nous sommes dans une démarche parlementaire, il faut que la démarche parlementaire a à son terme. Après, on verra si crise ou pas crise, ou la motion de censure est votée et à ce moment-là, le texte est abandonné et le gouvernement est censuré, ou elle n'est pas votée et à ce moment-là, le texte est adopté. Donc il va y avoir un moment de vérité et ce n'est pas à la rue d'aller au bout de la procédure parlementaire, ce n'est pas à la rue d'interrompre la procédure parlementaire. Il est normal que la procédure parlementaire a jusqu'à son terme. Donc on verra lundi et lundi, il faudra respecter ce que le Parlement aura dit.
Quand vous parlez de violence, vous parlez de la violence de la rue uniquement ou de la violence de la procédure du 49-3?
Ça, je ne vois pas de violence dans la procédure du 49-3. Nous sommes dans une procédure constitutionnelle, faut pas exagérer. Je crois bien qu'il faut... Tout le monde cherche toujours à interpréter les circonstances et à faire de l'idéologie là-dessus. En fait, il est très clair qu'un gouvernement, à un moment, il peut dire « Écoutez, ou vous prenez ce texte, ou c'est moi qui pars ». C'est une vérité, de temps en temps, c'est bien de le dire, de mettre son autorité en jeu. Ou je soutiens ce texte, et si ce texte ne passe pas, je m'en vais.
Oui, enfin, chaque gouvernement ne veut absolument pas partir. Il voudrait que le texte passe et rester.
Mais là, en l'occurrence, la procédure parlementaire met le gouvernement en situation où il peut être censuré. Donc, il faut laisser la procédure aller à son terme. C'est pas à la rue d'interrompre la procédure parlementaire. Et lundi, nous verrons, et ce sera au président de la République, de tirer les leçons de la situation où il faudra un nouveau gouvernement, où il faudra que lui-même prenne l'initiative pour apaiser, car il faudra apaiser.
Est-ce que ces images, cette violence de la rue que vous décrivez, qu'on a tous vue depuis hier, est-ce que ça vous rappelle, parce qu'on a tendance à se rappeler, 1995, le plan Juppé qui prévoyait notamment l'allongement de la durée de cotisation de 37 ans et demi à 40 pour les salariés de la fonction publique, mais aussi, et vous étiez ministre des PME, mais aussi en 2003 en tant que Premier ministre, lorsqu'on a voulu passer de 60 à 62 ans.
Bien sûr que ça me rappelle ces difficultés que nous avons eues. Mais disons que les choses étaient assez différentes. Mais maintenant, on est dans la phase parlementaire. Avant, dans la phase sociale, les choses étaient très différentes. Et je voudrais rappeler qu'en ce qui me concerne, et c'était une idée qu'on avait eue avec Jacques Chirac, on avait mis à la concertation, non pas un projet de loi, la réforme des retraites. Mmh. On avait mis dès le début l'agenda social, c'est-à-dire la décentralisation, la réforme de l'assurance maladie. Et par exemple, la CFDT nous a dit, écoutez, on veut bien s'engager sur l'agenda social, mais on veut les intermittents du spectacle, par exemple. Donc on a eu une négociation avec la CFDT notamment.
Qui a beaucoup coûté à François Chirac, d'ailleurs.
Qui a beaucoup coûté à François Chirac, bien sûr, mais qui a permis à ce qu'on fasse cette réforme avec une partie des syndicats, et donc que le dialogue social ait été à son terme. Donc je crois que c'est très important. Et aujourd'hui, je vois dans la situation, mais en amont, parce que maintenant on est en aval avec le débat parlementaire, en amont, la grosse différence, c'était que nous, on avait une discussion avec les syndicats sur un agenda social qui avait donné une partie d'accord, et puis on avait un parti politique, l'UMP, qui est beaucoup plus puissant que n'est aujourd'hui Renaissance. Et donc on avait dans chaque circonscription un délégué retraite, et puis il y avait une équipe de jeunes parlementaires, parmi lesquels Baroin, Bertrand, qui animait tout ce travail. Il y avait un gros travail de terrain qui était fait. Aujourd'hui, Renaissance, parti très jeune, très nouveau,
disparate.
Et pas encore organisé, très disparate, et pas puissant, pas enraciné, et pas de système, je dirais même de coaching qui doit être important, d'encadrement assez sérieux.
Est-ce que c'est-à-dire, vous diriez jusqu'à dire que n'aurait pas dû y aller sur cette réforme parce que cette majorité était trop faible et parce qu'il y a trop de disparités dans Renaissance et parce qu'il n'y aurait pas forcément cette main tendue des LR qu'on espérait tant?
Non, je pense qu'ils auraient dû y aller, mais avec un travail politique beaucoup plus avancé que
mais
cela.
Mais de quelle façon? Parce que ça, les Français,
par exemple, avec
c'est
un
du jargon politique.
Non, mais enfin, on a fait des campagnes législatives sans parti politique. Est-ce que vous avez vu un seul meeting avec les trois leaders de la majorité dans la campagne? Il n'y a pas eu de campagne politique. Aujourd'hui,
il y a eu une conférence de presse avec François Bayrou, Édouard Philippe.
Voilà. Mais il n'y a pas de travail, pas de meeting commun, pas de travail en commun. Et puis, c'est le travail parlementaire, c'est un travail très important. Chirac m'avait toujours dit, pour toi, la réunion la plus importante de la semaine, c'est la réunion du groupe le mardi matin. Le tempérament de la France, le climat de la France, il se voit au groupe parlementaire. Et un parlementaire, avant de devenir opposant, vous avez des étapes où vous le sentez frémir, vous le sentez contester progressivement. C'est là où vous devez discuter, échanger avec lui. Il y a un travail énorme à faire, et ça, c'est un métier politique. Mais et oui, ce métier politique, il faut accepter qu'il puisse avoir lieu. Et c'est pour ça que je crois qu'il nous fera revenir à ce qu'il y ait des maires au Parlement, parce qu'il nous faut des gens qui aient de l'expérience politique. Il nous faut quand même revenir à ce qui est un vrai métier.
La société civile, ça va bien, c'est ce que vous êtes en train de
dire.
Non,
je pense qu'on peut.
Parce que c'était le modèle d'En Marche.
Oui, mais les maires font partie de la société civile. Mmh. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est que des gens d'expérience et qu'on ne laisse pas l'humeur et l'émotion dominer toutes les décisions.
C'est intéressant ce que vous dites à propos des réunions de groupe.
C'est gentil à vous, ça.
Non, mais les réunions de groupe, c'est important. Mais vous voyez bien quand même, et tout le monde le dit à mots cachés dans la majorité, tout vient de l'Élysée, tout est centralisé. C'est pas pour rien qu'on a appelé Emmanuel Macron Jupiter. Est-ce que vous voyez Emmanuel Macron descendre faire une réunion de groupe alors que tout le monde a peur de lui dans la majorité ?
Oh, je ne crois pas qu'il ait de la peur, mais c'est vrai qu'il a de l'autorité. Mais enfin, maintenant, on n'en est plus là. Maintenant, on est dans un débat parlementaire, une procédure est engagée, et je ne suis pas d'accord à ce qu'il y ait une agitation dans la rue. Il faut que cette procédure aille à son terme, c'est-à-dire qu'il y ait le vote des motions de censure, et qu'on puisse analyser et respecter le vote des motions de censure. Soyons des républicains sereins, et que la démocratie s'exprime sur une motion de censure, ou plusieurs, et que les députés s'expriment, et qu'on tienne compte de ce qu'ils auront dit.
Mais alors, ceux qui agitent la dissolution, le renversement, le départ de Mme Borne, ça vous énerve ?
Ça ne m'énerve pas, mais je voudrais savoir quelle est la majorité alternative aujourd'hui. Est-ce que c'est une majorité Rassemblement National, Rassemblement National et NUPES ? Comment est-ce qu'on fonctionne ? Je vois très bien comment est aujourd'hui la majorité relative. Je vois très bien qu'elle a un leader qui s'appelle Macron. Quel est l'autre leader ? L'autre leader, c'est Mélenchon. L'autre leader, c'est Mme Le Pen. Quel est l'autre leader ? Quel est le sujet alternatif ? Donc, c'est avant de casser un jouet, il faut savoir par quoi on remplace.
Ne pas lâcher la poire pour l'ombre.
Bien sûr. Et donc, il faut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire pour apaiser le pays, à écouter le pays. Ça, c'est très clair qu'on voit qu'aujourd'hui, la contestation est profonde et qu'il faut en tenir compte. Mais pas certainement en laissant la rue décider des procédures parlementaires.
Et quand vous voyez le groupe Les Républicains avec un chef, Éric Ciotti, qui dit « Nous ne voterons pas les motions de censure » et juste après, quelques-uns qui disent « Mais on ne voit pas pourquoi on ne regarderait pas les motions de censure et on les votera si ça nous plaît au sein même des Républicains ».
Vous savez, j'ai été très sévère avec les Républicains au point de les quitter. Je n'ai pas apprécié beaucoup de leurs attitudes. Mais aussi bien Ciotti que Retailleau, dans cet dernier épisode, ont été dignes de leurs fonctions. Ils ont eu des convictions, ils ont assumé. Et naturellement, il y a un certain nombre de parlementaires qui n'ont pas suivi ces orientations. C'est regrettable, mais il faut dire que le parti connaît des crises et qu'il n'y a pas l'organisation qu'il y avait dans le passé. Mais d'une manière générale, je trouve que les responsables du Parti Républicain, dans cette affaire, se sont bien comportés. Et c'est... je crois plutôt à l'honneur d'honneur.
Jean-Pierre Raffarin est notre invité, notre grand témoin de l'actualité en ce vendredi soir. Ne sortons pas de l'histoire, c'est son livre, on en parle dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1 soir week-end, Pierre de Villeneuve.
Et notre grand témoin de l'actualité ce soir, c'est Jean-Pierre Raffarin. Pour votre livre, Jean-Pierre Raffarin, Ne sortons pas de l'histoire. Vous y abordez beaucoup de sujets et notamment, on va le voir, la place de la France dans le monde. Question simple, à quoi pensez-vous le matin en vous rasant ?
Écoutez, je pense à ma famille, je pense qu'au fond, dans cet univers très très difficile, je pense aux enfants et...
Parce que ça ressemble beaucoup à un livre de campagne.
Non, c'est pas... C'est
et comme on s'attend à tout en politique aujourd'hui, je préfère vous poser la question directement, en 2027 arrive...
C'est pas un livre de campagne, c'est un livre, c'est une sorte de lettre aux petits-enfants, c'est une lettre aux enfants de France, c'est un message en disant regardez bien les choses en face, et puis trouvez les stratégies pour faire face à nos difficultés, mais regardons les réalités en face. On voit que la guerre est de retour en Europe, que cette guerre en Ukraine...
On a mis du temps d'ailleurs à dire qu'elle est en Europe. On a d'abord dit qu'elle est aux portes de l'Europe. Oui. C'était très difficile à entendre.
Elle est fondamentalement en Europe et cette agression russe fait une première victime naturellement, c'est le peuple ukrainien, peuple très très courageux, admirable. mais elle fait aussi une deuxième victime, c'est sans doute l'Union européenne. Et l'Union européenne, on la sent un peu bousculée parce qu'il y a les crises qui viennent avec cela. C'est l'inflation, c'est l'énergie, mais il y a aussi les questions de défense. C'est la puissance des États-Unis et la puissance de l'OTAN qui revient. Le projet de défense européen est, je dirais, aujourd'hui, entre parenthèses, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec le fait que notre chef de guerre aujourd'hui, c'est l'OTAN, ce qui naturellement pose des questions sur notre souveraineté. Et donc, à cela, naturellement, s'ajoute la tenaille que les États-Unis et la Chine pressent sur nous. Les Américains nous demandent d'être très anti-chinois et de nous soumettre aux lois du dollar, avec l'extraterritorialité du loi. Les Chinois nous ouvrent leur marché en fonction des satisfactions politiques qu'ils obtiennent. Donc, on voit bien qu'on est en difficulté assez majeure. Et quelle est notre stratégie ? Quelle est notre perspective ? Et là, je ne vois rien de clair, de politiquement simple que l'opinion publique peut comprendre. En quoi sommes-nous aujourd'hui les meilleurs ? En quoi pouvons-nous être aujourd'hui qu'il y ait un leadership européen qui soit pour nous l'occasion d'être respecté par les autres ? On n'est plus tout à fait leader en agriculture, on n'est pas leader en industrie, on n'est pas leader en technologie. On est leader, tiens, sur un sujet qui est sans doute quelque chose de très important, qui sont les accords de Paris, et qui finalement, sur notre terrain, la planète est devenue un objet politique alors qu'elle n'était pas avant. Et que les jeunes, qu'ils habitent Singapour, qu'ils habitent Bangalore, qu'ils habitent Shanghai ou San Francisco, ils ont fait de la planète un objectif politique. Ils veulent protéger la planète pour protéger l'humanité. Et là, je pense que c'est le cap de l'Europe. Qu'est-ce que nous avons à dire aux autres pays ? Nous avons à dire que pour la paix du monde, pour l'avenir de l'humanité, nous voulons protéger la planète et protéger l'humanité. Je pense qu'il faut trouver une stratégie, et cette stratégie, elle peut donner un leadership à l'Europe. Donc tout mon travail et ma réflexion, c'est pour ça que ce n'est pas une campagne, mais c'est un message pour les plus jeunes. Écoutez, si l'Europe n'est pas leader en une matière ou une autre, elle ne sera pas respectée dans le monde. Et si on n'est pas respecté dans le monde, on sera une balle de ping-pong qui recevra des coups de raquette. D'un coup, un jour les Russes, l'autre jour les Américains, après les Africains, peut-être naturellement les Chinois, et tout ça nous conduit à être extrêmement inquiet de la sortie de l'histoire de l'Europe.
On va voir justement cette énumération de problèmes point par point, si vous le voulez bien, puisque dans les grands témoins de l'actualité, nous avons le temps. Ça tombe bien, monsieur le Premier ministre.
Absolument.
Et si vous voulez bien, on commence par le titre. Ne sortons pas de l'histoire. Vous donnez une sorte de réponse en musique. Voilà, vous qui aimez le rock, Musik kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris steht Mickey Mouse, chante les Rammstein en 2004 lorsque vous étiez justement à Matignon. Cette chanson, la musique vient de la Maison Blanche et devant Paris, il y a Mickey Mouse. Ça veut dire quoi ? C'est une allégorie pour dire qu'on est, comme le craignait d'une certaine manière Emmanuel Macron il y a quelques années, ne pas être le vassal des Américains ?
Bien, c'est cela, c'est en effet le message que je veux développer, qu'il faut pouvoir avoir notre culture, il ne faut pas avoir peur des autres, mais il faut se muscler sur notre culture. D'ailleurs, ma génération, moi, on a été assez bien préparés à la puissance américaine. Il y avait le défi américain, il y avait l'Express quand j'étais jeune, on avait 20 ans, on allait aux États-Unis et on avait vraiment un objectif qui était la diversité culturelle. Certes, on prenait le rock'n'roll, mais on essayait de résister pour qu'on ait notre modèle. Il fallait aider notre cinéma, il fallait aider nos livres, il y avait le prix du livre, il y avait le cinéma français qui était soutenu, etc. Donc on a été préparés. Mais aujourd'hui, je ne vois pas les jeunes se préparer à cette présence de la Chine avec une culture qui est beaucoup plus complexe que la nôtre, avec une culture...
Peut-être parce qu'on ne la connaît pas, la Chine. Mais c'est qu'on refuse de s'y préparer parce que c'est l'ennemi.
Et parce qu'au fond, vous voyez, nos trois derniers présidents de la République n'étaient pas allés en Chine, vraiment sérieusement, avant d'être président. Et donc, on a à connaître ce monde, et je pense que c'est ça qui est le message, et qui est le message de ce livre. Regardons le monde. Et dans ce monde, les gens ne nous attendent pas. Et si on n'est pas leader dans un domaine, si on n'a pas une stratégie qui fait que l'Europe a son utilité pour le monde, eh bien, on disparaîtra.
Pardonnez-moi, mais que craignez-vous des Américains ? Vous parlez de tenaille. Nous sommes en tenaille, vous avez dit tout à l'heure, à 5 minutes, entre les Américains et les Chinois. Les Chinois, on va y venir, et on connaît votre passion pour la Chine et votre bonne connaissance de ce pays. Mais les Américains, il y a des pays d'Europe... la Pologne, par exemple, et d'autres également, les Allemands d'une certaine manière, qui sont des pays atlantistes. C'est quoi le problème ?
Le problème, c'est que les Américains sont nos frères en démocratie. Ça, c'est très clair. Et que nous sommes des alliés. C'est encore plus clair. En plus, on a la gratitude de l'histoire parce qu'ils nous ont sauvés. Donc, il n'y a pas de souci
majeur. Ils sont en train
majeur.
De sauver l'Ukraine. Vous avez l'argent qu'ils mettent en Ukraine et les armes.
Mais, si vous voulez, c'est très bien ça. Mais vous avez exactement posé le problème. C'est qu'ils sont en train de mener la guerre. Mmh. Le chef de guerre est américain aujourd'hui sur le continent européen. Ça s'appelle quoi, ça ? Ça veut dire que l'Europe est au deuxième degré et que c'est les Américains qui pilotent les affaires.
Ça veut dire qu'on n'a plus de souveraineté en matière de guerre.
Voilà. Mmh. Ça veut dire que...
Mais en quoi c'est grave ? C'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre.
Parce que si on n'a pas de souveraineté, on va apparaître comme des alignés des États-Unis et rien que tel. Et donc, on va être des adversaires de l'autre moitié du monde. L'autre moitié du monde, qui est quand même très importante, on le voit en Afrique, on est remis en cause aujourd'hui par la pression et de la Chine, et surtout de la Russie, et aussi de l'Inde et du Japon qui avancent là-bas. On voit bien que si on n'a pas notre propre souveraineté, on va souffrir à peu près tout. Les Américains, ils ne veulent pas se contenter du fait qu'on soit alliés, ils veulent qu'on soit alignés. Mmh. Mais si on est aligné sur les Américains, on est dans le clan atlantiste, on est dans le clan de l'Occident. C'est un camp qui est aujourd'hui minoritaire dans le monde et nous perdons notre identité européenne. Moi, je suis
donc
pour le respect.
Donc, vous critiquez Olaf Scholz, vous critiquez les Allemands d'être militairement dépendants des Américains.
Absolument. Je pense que nous devons avoir une souveraineté européenne. Et ça, il faut travailler sur ce sujet en accord avec les Américains, en loyauté avec les Américains. Je dirais même aussi en loyauté avec les Anglais. Parce que la défense anglaise est respectable et nous avons souvent besoin de la coopération.
On avait même un projet de porte-avions en commun il n'y a pas très longtemps.
Absolument. Et on a des accords importants qu'il faut continuer de respecter. Donc, il faut travailler avec nos alliés, mais il faut viser à l'indépendance européenne. Il ne faut pas systématiquement, quand on discute avec Poutine, qu'on apparaisse comme les vassaux des États-Unis.
Mais tout est une question de câblage. Et là, si vous me dites que, oui, effectivement, les Allemands sont critiquables parce qu'ils sont très dépendants, au moins militairement, des Américains, mais pas que, ça veut dire que notre fameux couple franco-allemand n'est plus un couple.
Je pense que c'est plus un contrat qu'il nous faut bâtir qu'un couple. Je pense qu'il faut qu'on ait un accord avec les Allemands. Je pense que l'idée du couple, c'est une idée un peu idéale qui est aujourd'hui utopique. Parce que finalement, on voit arriver des sujets de divergence. Le principal, c'est la question du nucléaire. Je ne vois pas l'avenir de la France sans industrie nucléaire et je ne vois pas les Allemands accepter le nucléaire. Donc voilà, là on est sur un sujet de grand désaccord. Et on aura d'autres désaccords. Mais il y a des sujets qui sont des sujets d'accord. Il y a des sujets de coopération. Par exemple, les relations avec la Chine. Je pense qu'il faut que les relations avec la Chine soient vraiment du franco-allemand, que nous soyons harmonisés sur un certain nombre de sujets. Je dirais même que les relations avec l'Afrique seront des relations franco-allemandes. Il nous faut nous coordonner sur un certain nombre de ces sujets. Parce que là, nous avons une puissance continentale quand nous sommes français et allemands ensemble. Et donc, je pense vraiment que ce qu'il est important aujourd'hui de faire, c'est d'essayer d'avoir une relation franco-allemande qui soit une relation de force. Vous savez, quand il y avait eu l'affaire de la guerre en Irak, les Américains avaient menti au monde entier pour faire les interventions en disant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Mmh. Jacques Chirac, après que un certain nombre de pays nous aient aidés, m'avait envoyé au Mexique et au Canada, deux pays qui étaient proches des Américains, mais qui avaient soutenu la France. Et puis, en Chine et en Inde. C'était les quatre grands pays qui nous avaient soutenus. Ils m'avaient demandé d'aller transformer cet accord politique en soutien économique. J'y suis donc allé. Et ce qui m'a frappé, j'expliquais comment Jacques Chirac avait été clairvoyant, comment il avait été fort dans cette affaire. Et on me répondait toujours, oui, Chirac et Schröder. La voix était française, mais la relation était franco-allemande. Mmh. L'accord était... Et quand les Français et les Allemands sont ensemble, ils sont très forts. D'abord parce qu'ensemble, ils ont surmonté la honte. Ils ont surmonté l'horreur. Vous savez, nous, on a effacé des choses, même si notre cicatrice est toujours vivante, mais dans cette Deuxième Guerre mondiale notamment. Mais les Chinois et les Japonais, ils n'ont pas effacé. Hein. Ils ne sont pas dans cette situation. Ils nous admirent d'avoir surmonté tout ça. Donc, il faut bien se dire qu'on a besoin d'un accord franco-allemand, qu'on accepte de ne pas être d'accord sur tout, qu'on accepte d'avoir des différences, qu'on laisse les uns et les autres travailler sur ces différences, mais qu'on ait un accord stratégique. Et à terme, pour moi, l'accord essentiel, c'est la même politique vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Afrique et, si possible, vis-à-vis de la Russie.
Alors, moi, je veux bien faire une politique vis-à-vis de la Chine, mais comment est-ce qu'on peut faire une politique vis-à-vis de la Chine alors qu'on sait que la Chine veut avoir une mainmise et c'est la revanche de plusieurs siècles, voire de millénaires sur la vieille Europe. Et puis, d'un autre côté, on a quand même une Chine, on le dit, et j'aimerais bien avoir votre point de vue, qui s'apprête à racheter à bas coût la Russie si elle tombe.
La Chine est...
Encore comme, une question de câblage.
Mais la Chine est, comme le dit l'Union européenne, et comme le dit la stratégie diplomatique française, est un adversaire systémique. Mais d'autre part, nous avons un certain nombre d'éléments de coopération. Parce que
Comme tous les pays, les Américains aussi. Il y a un accord de libre-échange avec les Chinois qui ne peut pas tomber et qui les empêche de s'affronter.
Comme tous les pays. Et nous avons nos grandes entreprises, L'Oréal, Schneider, Michelin, Sanofi, Seb et beaucoup d'autres.
Toute la filière automobile.
Sont toute la filière automobile. On a plus de 120 usines des équipementiers français en Chine. Donc, on a beaucoup de choses qui sont faites en Chine et qui ramènent des devises en France. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important à protéger. On a en fait un feu tricolore pour les relations avec la Chine. C'est rouge sur la politique, c'est rouge sur les droits de l'homme. Là, on n'a pas envie d'être communiste, ils n'ont pas envie d'être démocrate. Donc là, on sait que
ça ne changera pas.
À mon avis, ça ne change pas. Nous, il y a peu de chances qu'on soit communiste et j'espère qu'on ne le sera jamais.
Non, mais surtout les Chinois, est-ce qu'ils seront communistes jusqu'à la fin des siècles ?
Et je crois que de toute façon, on aura toujours un problème avec eux parce que pour nous, la valeur, c'est la personne. La personne humaine et sa liberté. Et pour eux, la valeur, c'est le groupe. Et que le groupe est capable de dominer la
nation,
personne.
Voilà.
Alors, mais c'est la famille, c'est l'entreprise.
C'est pas l'individu.
C'est pas l'individu. Et donc là, on a un clivage qui est quand même très important. Donc là, le feu est rouge. Le feu est orange sur les entreprises, parce que sur les échanges économiques, parce qu'on a beaucoup de bons résultats, mais on a un commerce qui est déficitaire. Donc il faut qu'on l'améliore. C'est pour ça qu'il n'est pas vert, ce rouge. Ce feu, il est orange. Et puis, il y a un feu qui est plus vert, qui est la gouvernance mondiale. On ne pourra pas gouverner le monde avec l'ONU, avec les grandes structures multilatérales, si on n'a pas l'accord de la Chine. La Chine, avec 1,4 milliard, vous savez, Chirac me disait toujours, attention, fais attention, ils sont aussi intelligents que nous. Ils travaillent beaucoup plus, ils sont 1,4 milliard. Donc on ne pourra pas faire les choses sans eux. Et donc je crois qu'il faut avoir cette lucidité. Mais cette lucidité, ça veut dire qu'il faut qu'on se muscle, qu'on sache exactement les sujets culturels sur lesquels on est un peu menacé. Je vous citais l'exemple de la personne par rapport au groupe, d'où des questions sur les reconnaissances faciales, où nous avons des différences culturelles qui sont des différences essentielles. Donc il faut bien se préparer à ça. Il faut que les jeunes se préparent à rencontrer la Chine dans leur propre avenir. Et donc ils soient capables.
Il faut qu'ils apprennent le chinois déjà,
comme nous,
dans les écoles.
Pour un certain nombre d'entre eux, oui. Comme nous avons eu finalement une confrontation avec les États-Unis et nous n'avons pas perdu notre culture. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui convaincre l'Europe qu'elle doit avoir son identité, ses convictions, sa stratégie et qu'on ait une stratégie. Et pour moi, la stratégie, c'est la planétisation de la politique. L'objet essentiel aujourd'hui, c'est de protéger la planète. Et qui fait ça? C'est d'abord et avant tout l'Europe qui doit être exemplaire sur un événement européen qui est l'accord de Paris.
Il y a un slogan presque publicitaire qui revient dans votre livre tout au long, c'est Made in China 2025. C'est le plan industriel de la Chine, pas que industriel, économique d'une manière plus large. La Chine est en train de faire de l'Afrique sa base arrière. Il y a énormément d'investissements en Chine, je crois que c'est 200 milliards d'euros à peu près. Donc on a une Afrique où il y avait, fut un temps, et j'ai du mal à prononcer ce mot parce qu'il est extrêmement galvaudé, la France-Afrique, c'est-à-dire qu'il y a eu des richesses françaises qui ont été investies. On a investi beaucoup en Afrique pour justement développer différents sujets. Aujourd'hui, ça n'existe plus, on n'a plus aucun marché. Et en plus, nos militaires qui gardaient la paix en Afrique, maintenant sont remplacés par les mercenaires de chez Wagner.
Bien sûr que nous sommes dans une situation difficile, mais disons que d'abord, l'Afrique...
Alors comment voulez-vous discuter avec la Chine ?
L'Afrique, mais attendez. D'abord, je pense qu'il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans une situation assez tragique. Il va falloir intégrer 1 milliard de jeunes d'ici la fin du siècle. Et si on n'est pas capable de les intégrer dans des processus africains, et d'emploi et de développement économique et social, c'est le terroriste qui va les accueillir.
Aujourd'hui, les intégrer, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire leur trouver un job, leur donner une activité.
Sur place.
Sur place, oui, bien oui, sûr. Oui. Donc, évidemment, faire en sorte qu'il y ait un développement de l'économie africaine pour les Africains. Mais ça veut dire aussi qu'il faut le concurrent. Qu'est-ce qui propose l'emploi aux jeunes aujourd'hui ? C'est le terrorisme, c'est les organisations terroristes. Et donc, on a
un
adversaire.
Ils sont payés.
Ils sont payés pour faire ça.
Mais c'est bien de dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que.
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont. Il y a une certaine forme de voyoucratie dans tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent des gouvernements utilisent Wagner et d'autres voyous pour lutter contre les voyous. Donc il y a en fond tout ça, cette bataille du terrorisme. Donc il faut aider l'Afrique. Moi, je ne crois pas, ça c'est un point très central, que l'Europe et que la France et que nous serons heureux si l'Afrique est malheureuse. Je crois que nos destins sont liés. Donc il faut un développement de l'Afrique. Avons-nous assez d'argent ? Non. Qui a aujourd'hui de l'argent ? les Asiatiques et les Chinois, un peu les Indiens et un peu les Japonais aussi qui sont motivés. Donc moi je suis pour un accord multilatéral entre l'Europe et l'Asie pour aider l'Afrique. Il ne s'agit pas d'un pays qui aide, parce que maintenant c'est bien qu'en Afrique c'est mal perçu quand un pays aide, parce qu'il est suspecté d'avoir une influence, il faut un accord multilatéral. Et c'est pour ça que je prône dans mon livre un accord entre l'Europe et l'Asie pour aider l'Afrique.
Mais vous ne voulez pas qu'on soit aligné avec les États-Unis, vous voulez qu'on soit aligné avec la Chine. Quelle
non,
est la différence?
Non, je ne dis pas dessus tout ça, je dis pour l'Afrique. Là, vous êtes malicieux, mais vous tombez sur quelqu'un qui est aussi malicieux. Donc, je vais vous dire, vous n'êtes pas assez attentif malgré toute la pertinence de vos propos. Deux choses. D'une part, moi, je crois qu'il nous faut un dossier stratégique avec les États-Unis et un dossier stratégique avec la Chine. Pour sortir de la tenaille, il faut travailler en proximité avec les États-Unis.
Mais est-ce que tout le monde veut le faire?
Sur quel sujet? Mais oui, je vous fais mes propositions d'abord. Mais d'abord, je
veux vous. Parce que vu ce que vous dites sur Anthony Blinken, je ne suis pas sûr.
Je vais vous dire. Mais si, je propose quelque chose de très clair. Et ce que je propose, c'est le front des démocraties. C'est ce que nous pouvons faire. Ce que a proposé Biden, mais il a proposé ça et il a fait une première réunion sur le sujet, mais il l'a fait contre la Chine. Alors que ce qu'il faut faire, c'est pour les démocraties. Aujourd'hui, les démocraties sont fragiles. Regardez ce qui s'est encore passé au Brésil, regardez ce qui s'est passé au Capitole, regardez ce qui s'est passé en France et ce qui se passe encore régulièrement en France. Il y en a un débat parlementaire et c'est dans la rue que se joue souvent l'actualité politique. Et donc, on voit bien que nos systèmes démocratiques sont fragiles. Il faut les renforcer. Est-ce que vous avez déjà vu des réunions entre les Français et les Allemands, entre les Français et les Israéliens, entre les Français et les Coréens du Sud, pour améliorer la démocratie, pour échanger les bonnes pratiques? Non. Il faut travailler ensemble sur le projet démocratique. Et ça, c'est la démocratie américaine qui peut être notre leader pour tout ça. Pourquoi elle est notre leader? Parce que nous, quand il y a des problèmes, les gens s'abstiennent. Et eux, quand il y a des problèmes, ils vont voter.
Ils y vont.
Comment est-ce que Biden a battu Trump, alors que Trump fait 8 millions de voix de plus au deuxième élection que la première? C'est simplement 80 millions d'Américains vont voter. Et donc, c'est la participation électorale. Nous, on a des démocraties sans participation. Et ça, c'est là la fragilité. Donc, je dis, il y a, pour sortir de la tenaille, il faut un dossier stratégique. C'est celui des démocraties. Nous sommes dans le camp des démocraties. Personnellement, je préfère qu'on dise qu'on est dans le camp des démocraties plutôt que dans le camp de l'Occident. Donc, le camp des démocraties avec les Américains et le travail sur l'Afrique avec les Chinois et les Asiatiques.
Eh bien, malice contre malice, au moins vous avez expliqué les propos. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Ne sortons pas de l'histoire. Votre dernier livre chez Michel Lafon. Demain, pour l'info, dès 6h sur Europe 1, Lénaïque Meunier recevra notamment le numéro 1 de la CGT à 7h10, Philippe Martinez.